Alors c'est en montagne que j'ai trouvé le repos cet été. En dehors de la fraîcheur que j'ai appréciée, j'aime marcher sur les chemins de montagne. On ne peut marcher que lentement pour adapter son rythme au dénivelé plus ou moins pentu. Et cette lenteur est propice à la réflexion. Et cette réflexion m'a amenée sur la métaphore de la vie que représente le chemin. Quand je marche, il y a des pierres, des montées fatigantes, parfois périlleuses, et les descentes sont parfois glissantes, nécessitent de la concentration. Tous ces éléments, ces obstacles devant mes pas, mes pieds, peuvent être pensés comme des images de ce que je trouve dans ma vie. À presque chaque pas, j'ai un choix à faire. Vais-je poser mon pied à cet endroit pour éviter une pierre? De la même manière que je dois prendre en compte les obstacles du quotidien et faire en sorte d'agir avec sagesse et discernement. Vais-je m'arrêter pour regarder le paysage? De la même manière que je m'arrête pour remercier Dieu de toutes ses merveilles? Et puis, c'est toujours fatigant de marcher en montagne. De même que mener sa vie demande des efforts. Mais quand on arrive en haut, la vue se dégage. De même, quand on chemine avec une idée, un problème, qu'on le laisse mûrir, on le considère sous plusieurs angles, cela nous permet de prendre un recul bénéfique et d'avoir une vue plus claire. Le moment du pique-nique est un repos où l'on reprend des forces. On y voit aussi plus clair pour prendre des décisions. Faut-il continuer ou redescendre? Faire l'état des lieux de soi-même, de la situation, pour évaluer nos capacités et ce qu'il sera bon à prendre comme décision. Et puis parfois, je dois m'arrêter pour faire demi-tour. Quand j'ai surestimé mes forces, marcher en montagne demande de l'humilité. Et cette humilité, eh bien, on l'oublie parfois, souvent, dans notre vie de tous les jours. Nous allons voir comment Jésus en parle dans la parabole où il parle de l'invité. Les récits entendus dans l'évangile de Luc m'ont rappelé cette importance des comportements, des choix, des décisions. Comment faisons-nous ? La pierre que je vois sur le chemin est bien visible et je prends ma décision en conséquence. Mais dans la vie de tous les jours, évidemment, c'est plus difficile à percevoir. Jésus nous aide à réfléchir. Il ne décide pas à notre place, mais il invite ses interlocuteurs à aller plus loin que la morale commune et que les fondamentaux religieux. Dans le premier passage, il s'agit de faire une guérison le jour du sabbat, et avant d'agir, Jésus pose la question : est-il permis ou non de soigner le jour du sabbat ? Personne n'ose répondre, et en effet, dans l'exemple que Jésus va donner après, c'est un exemple qui parle de vie et de mort. Jésus fait réfléchir sur ce jour sacré du sabbat. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a deux raisons à ce respect. L'une dit que Dieu s'est reposé le septième jour de la création. Et la deuxième raison dans le livre du Deutéronome, c'est que Dieu a libéré le peuple du pays d'Égypte. C'est pour ça qu'il faut respecter ce repos. Une guérison, c'est une libération. Voir Jésus guérir, c'est voir Dieu à l'œuvre, c'est voir la vie libérée que Dieu désire pour les êtres humains, à travers Jésus. Et Jésus leur fait prendre du recul sur leurs dogmes religieux. À quoi servent-ils? Quels sens ont-ils? Respectent-ils la vie? À nous aussi, ces questions sont adressées. Avons-nous des principes religieux qui excluent les autres ou des principes sociaux ou moraux? Dans le deuxième passage, il est question d'un invité important. Jésus interpelle sur la façon dont chacun se considère. Aux pharisiens qui l'observent, Jésus renvoie leur image illusoire de perfection. Tu te considères comme important et tu prends la première place. Mais que sais-tu de l'importance de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas? On associe souvent notre propre existence à la place qu'on prend dans la société ou qu'on nous donne. Et bien sûr, notre vie commence avec l'enfant, qui est toujours plus petit que les adultes, et le désir de grandir peut se transformer en désir d'être le premier. Mais qui dit premier dit qu'on en laisse derrière nous. Et dans ce passage, quelques subtilités nous montrent que Jésus veut faire passer les auditeurs de l'époque et d'aujourd'hui, donc nous aussi, il veut nous faire passer d'une réalité terrestre, être premier aux yeux des autres, à notre place dans le royaume de Dieu. En effet, la volonté humaine d'exister aux yeux des autres se développe évidemment de façon très inégale dans le monde, voire injuste. Alors Dieu nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, ce qu'on peut poser comme base, c'est que l'amour de Dieu nous fait exister de façon inconditionnelle. Pas besoin de jouer des coudes. Jésus prend pour cela, pour nous expliquer cela, l'image d'un repas de noces. Et le repas de noces, c'est l'image du festin messianique, du repas offert dans le royaume. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, dit le livre de l'Apocalypse. Suis-je première, dernière? Ami, monte plus haut. Quand on aborde la question de Dieu avec humilité, quand on est conscient de nos limites face au Père, alors c'est lui qui nous donne notre juste place. C'est lui qui nous prend là où nous sommes et qui nous élève. En grec, il ne s'agit plus de première ou de dernière place, mais d'une élévation, en lien avec l'abaissement exprimé à la fin. L'action de l'élévation vient de Dieu. Mais si on veut s'élever tout seul, alors Dieu nous laisse. Et cela risque souvent de finir par une chute. Parce que toutes les gloires humaines, finissent par passer. Mais la seule gloire qui tienne, même au-delà de la mort, c'est celle que Dieu donne. Regardons à Jésus. Il a accepté l'abaissement sans avoir peur de la mort, mais en traversant la souffrance, en sachant qu'il était dans les mains du Père. Dieu l'a ressuscité et lui a donné la vie éternelle. La notion d'humilité n'est pas un abaissement à entretenir, car le chapitre posera plus loin la question de notre acceptation d'être élevé. C'est pas rien. Est-ce que j'accepte d'être élevé? Est-ce que j'accepte d'être invité dans le royaume? Et puis, à la fin du chapitre, on parlera d'accepter d'être le sel de la terre. Alors voilà le cheminement auquel Jésus nous invite. Pas une morale, mais une ouverture à la réflexion pour prendre les décisions les plus pertinentes en cohérence avec le commandement d'amour. Le comportement, l'action que je peux poser va dire de moi-même plus que tous les développements idéologiques, philosophiques ou religieux que je peux défendre. Alors, je vais vous donner un exemple. Je peux dire, personnellement, que je n'adhère pas à la politique fasciste de Mussolini, le dirigeant italien de la première moitié du XXe siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais la question, c'est comment je peux considérer ceux qui adhèrent à cette idéologie ? Un jour, en Italie, encore dans un petit village de montagne, nous avons été secourus par un homme très gentil, alors que nous étions perdus et qu'il pleuvait des cordes. Il nous a redescendus en voiture et il nous a montré fièrement une carte de visite où était écrit le nom de Mussolini avec une médaille en or qu'il gardait précieusement sur lui, toujours. Alors évidemment, on a été un peu surpris, mais on était bien contents d'être au sec. Il a été notre bon samaritain, même si on ne partageait pas du tout ses idées. Les choix que nous faisons dans notre quotidien nécessitent plus ou moins de temps de réflexion. C'est vrai que souvent on agit spontanément et pourtant il y a des moments où il faudrait s'asseoir et réfléchir. On a du mal à prendre ce temps-là. Et j'ai lu cette semaine que certaines personnes se servaient de l'intelligence artificielle, bien sûr ça monte en puissance en ce moment, pour échanger les meilleures solutions à trouver en fonction de leurs problèmes personnels et même des problèmes relationnels. Comment faut-il que je fasse avec ma petite amie? Comment faut-il que je fasse avec la femme dont je suis en train de me séparer, etc., etc. Alors d'un côté, je reconnais peut-être que ça peut ouvrir l'esprit à d'autres angles d'approche, mais de l'autre côté, il y a une créativité dont n'est pas capable l'intelligence artificielle, parce que la créativité, c'est la trace de Dieu en nous. On peut aussi l'appeler inspiration, ou même intuition. Ça, c'est propre à l'être humain. Et c'est le lieu que Dieu choisit pour nous parler, pour nous inspirer. Comment je peux laisser Dieu m'inspirer si je m'accroche à la technologie? Alors, la prière est notre recours principal. La prière a des multiples manières de s'exprimer et de se faire et de se vivre. Elle peut se faire dans un cadre intime et rassurant, dans sa chambre, ou bien dans un élan spontané à Jésus et à Dieu, quand on est au travail, quand on est avec d'autres. Et Jésus ne nous donne pas des solutions toutes faites, mais il nous inspire des directions, des chemins, des actions. Il nous inspire des rencontres qui peuvent nous aider, ou des outils sur lesquels s'appuyer. Il appartient à chacun, chacune de nous de les écouter, de l'écouter et de prendre en compte ses inspirations, ses intuitions. Jésus nous invite à être pleinement humains, c'est-à-dire à accepter nos limites, mais aussi, en même temps, dans nos capacités personnelles à déployer, parce que Dieu en a besoin dans ce monde, de nos capacités personnelles. Alors Jésus nous invite enfin à nous confier en lui, dans toutes nos situations de vie, et d'entendre cette parole : Ami, monte plus haut. Amen.